Bienvenue dans le 20e rendez-vous des droits de l'enfant. L'enfant des droits, une émission de Radio Tiroir, la radio du Théâtre du Tiroir, avec le soutien de l'association suisse des amis de Janusz Korczak et le partenariat de l'autre radio. Je serai 3 milliards d'enfants. 3 milliards d'enfants. Oui, c'est bientôt le nombre d'enfants que comptera cette terre. Alain Serre est un poète, un écrivain, mais aussi un éditeur. Vous ne pouvez pas ignorer cette maison d'édition dédiée à la jeunesse, Rue du Monde. Les éditions Rue du Monde, animées par Alain Serre, nous offrent chaque fois des livres magnifiques. L'album « Je serai 3 milliards d'enfants » a été écrit et dessiné à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant et sa ratification par 192 pays. C'est un livre, un très grand livre, un livre de colère, de poésie et d'espoir. Des images, des photographies prises dans le monde entier, des illustrations de Judith Gueffier nous donnent un livre qui nous raconte l'histoire de Naïma, Joachim, Nemo, Bachir, Dewene. Tous ces enfants ont tous les droits que leur accorde la Convention des droits de l'enfant signée en 1989. Et pourtant, certains d'entre eux manquent d'eau, ils manquent de soins, ils manquent de vitamines, d'école, d'écoute et de liberté. C'est parfois le simple respect de leur personne qui fait cruellement défaut et leur vie chavire. Je serai 3 milliards d'enfants est un grand album d'images. Des grandes images pour que cela se voie, pour que cela se sache. Un album de mots sensibles aussi, pour nous encourager à offrir une autre enfance à ces bientôt 3 milliards de petits terriens.
Ah, enfant de la terre, écoute-moi, toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir, va, recommence notre histoire.
Je serai 3 milliards d'enfants. Pour vous donner envie de découvrir ce bel album, j'en ouvre pour vous les premières pages. Un grand dessin d'un oiseau, de deux oiseaux, de trois oiseaux. Et puis devant, une enfant aux cheveux noirs volant au vent. Une petite fille dans une jolie robe rouge qui danse dans le vent. Elle s'appelle Naïma. Il est fragile. Le cerf-volant de Naïma, plus fragile qu'un oiseau. C'est pourtant délicat un oiseau, presque autant qu'un enfant. Mais dans sa tête, Naïma a un autre cerf-volant, aux ailes vastes, vastes comme le vent. Un cerf-volant solide, puissant, en métal et en béton. Non, aucun aigle ne peut le déchirer, ni une tempête le briser, ou le noyer. Ce cerf-volant, le cerf-volant de Naïma, c'est son droit d'avoir des droits. Des droits écrits dans une convention internationale ratifiée par son pays. Naïma a même le droit de faire zigzaguer son cerf-volant qui n'est pas vraiment droit. Alors, Naïma, ça va ? Oui, répond Naïma. Ça ira. Et dans la page qui suit, le cerf-volant de Naïma va à la rencontre d'une autre enfant, Lucia. Lucia qui vient de naître, qui est couchée sur le ventre de sa maman et dans les bras de son papa. Lucia le jour de sa naissance, naître avec 7 trésors. Une maman en bonne santé, même si le bébé était lourd à porter, du lait tiède, un pays où habiter, des papiers, un drap qui sent bon la bienvenue. Naître avec un nom, un prénom que l'on est fier de porter. Et dès ce premier instant, commencer à être une personne qui compte infiniment parmi ses 7 milliards de parents. Voilà les deux premières pages de ce magnifique album où, en le feuilletant, nous voyagerons en Argentine, au Bangladesh, au Salvador, au Yémen, en Somalie, en Indonésie, au Venezuela, en Palestine, au Niger, au Bangladesh, au Mexique, à Béziers, au Cambodge, en Israël, en Australie, en France, au Brésil, à Singapour, à Paris. Bref, un grand voyage dans le monde à la rencontre de multiples enfants de toutes les couleurs. On reprendra la lecture de cet album à la fin de notre émission. Mais pour l'heure, retrouvons le docteur Moé Chérif. Nous reprenons aujourd'hui l'entretien commencé il y a 2 semaines maintenant avec le docteur Moé Chérif, président et fondateur de l'Association de défense des droits de l'enfant en Tunisie. La question du jour, c'est la question de la délinquance infantile. Alors, selon le lexique des termes juridiques, l'enfant s'entend de toute personne mineure protégée par la loi et qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans accompli. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Le droit précise qu'il y a 2 catégories d'enfants à protéger particulièrement, ceux qu'il considère en danger et ceux qu'il qualifie de délinquants. Ainsi, pour le droit, un enfant en danger est un mineur qui compromet son processus éducatif par un comportement inadapté et qui ne trouve pas dans son milieu naturel les conditions d'éducation adéquates lui permettant d'apprendre à grandir et d'accéder à la société. Cet enfant, selon la loi, bénéficiera alors de mesures de protection, d'ordre administratif, d'ordre civil. L'enfant délinquant, quant à lui, se définit comme étant un mineur qui commet un acte infractionnel, qualifié soit de contravention, de délit ou même de crime, et qui peut encourir une mesure répressive allant de la simple sanction éducative jusqu'à une lourde peine d'emprisonnement. Alors, docteur Chérif, que pensez-vous de cette notion de délinquance ?
Alors, oui, moi je n'aime pas les termes d'enfants de délinquance. Parce que pour nous, en tant que défenseurs des droits de l'enfant, l'enfant est une victime. On ne naît pas violent. Je ne connais pas de critères dans toutes les recherches qui sont faites à travers le monde, de critères génétiques de violence. Ça n'existe pas. Donc, on devient violent parce que on est né dans de mauvaises conditions, dans un environnement qui n'est pas propice pour que l'enfant puisse se développer et être équilibré et trouver sa place dans la société. Qui plus est, nous avons en Tunisie un système éducatif familial relativement violent. Le recours à la violence dans l'éducation est quelque chose de culturellement accepté. Donc, si vous rajoutez à ça le stress économique dans les familles, les difficultés de la vie et l'analphabétisme qui revient, comme je vous l'ai dit, et qui s'installe, donc des gens qui sont peu formés et qui vivent des situations extrêmement difficiles avec un recours accepté dans certaines limites de le recours à la violence dans l'éducation fait que le comportement violent est inculqué depuis le bas âge. Par exemple, de simples questions qu'on pose aux enfants, est-ce que vous êtes victime de violence ? Il vous répond non. Est-ce qu'on vous bat ? Il vous dit oui. Et ben voilà, vous êtes... Il dit ben non, on me bat parce qu'on m'aime, parce qu'on veut mon bien, parce qu'on veut m'éduquer. Donc, vous comprenez comprenez que c'est une approche culturelle un petit peu particulière. D'abord, nous avons amené un combat contre l'éducation violente. Hein. Donc, on est très en retard à ce niveau-là, malgré le fait que la Tunisie a ratifié toute la convention et qui condamne l'éducation violente et le recours à la violence dans le système éducatif, mais c'est une reconnaissance juridique qui n'a pas une véritable traduction culturelle. Ça reste profondément ancré que c'est la famille qui assure l'éducation et a le libre choix des méthodes éducatives qu'elle entreprend. On n'arrive pas à rendre justiciables les parents qui ont recours à la violence, dans certaines limites, bien sûr, acceptables. Donc, le comportement violent de l'enfant traduit le niveau de violence qui est toléré dans une société. Et ce niveau est relativement élevé chez nous. Donc, d'une part, d'autre part, quand vous n'avez pas un système qui peut assurer une protection correcte et un accompagnement sur le moyen et au long terme des enfants qui sont en situation difficile ou qui ont un comportement violent ou qui sont en conflit avec la loi, bien évidemment, la récidive est facile. Ceci dit, nous avons un système judiciaire qui est bien fait, même s'il n'est pas appliqué au pied de la lettre, qui est bien fait. Il y a ce qu'on appelle le recours à la médiation, qui peut arrêter tout le processus judiciaire d'un enfant et essayer de trouver un arrangement avec les gens qui sont victimes de l'agression de cet enfant. Et quand on trouve un arrangement, on va vers l'arrangement et on essaie de trouver des punitions alternatives. Donc ça existe dans le système judiciaire tunisien et c'est quelque chose d'excellent qu'il faut promouvoir encore plus. Mais toujours est-il que la correctionnelle aussi existe et qu'il y a bon nombre d'enfants qui se retrouvent dans les correctionnelles. La deuxième chose qui était bien, mais qui l'est de moins en moins, c'est ce que vous appelez enfants de rue. Nous n'avions pas d'enfants en situation de rue en Tunisie. Les enfants qui sont dans la rue, ce sont des enfants qui gardent toujours un lien avec leur propre famille. Il n'y a pas véritablement de rupture totale du lien parental. Mais avec les crises successives, comme je vous l'ai dit, que connaît la Tunisie et la relative défaillance de notre système de protection sociale, parce qu'on ne s'investit pas beaucoup dedans, parce qu'on considère, vu tous les problèmes de la Tunisie, que ce n'est pas une priorité, cette catégorie d'enfants commence à apparaître dans les grandes villes. Et elle est d'autant plus importante que la Tunisie connaît actuellement tout un mouvement migratoire, et que l'on un grand nombre d'enfants qui va grandissant et qui commence à poser une préoccupation pour tous ceux qui rentrent dans le système de protection des enfants, c'est les enfants migrants non accompagnés. On a beaucoup d'enfants qui se retrouvent sur le sol tunisien et qui n'ont pas de parents qui les accompagnent ou qui les ont perdus en cours de route. Ça devient une problématique qu'on essaie de répondre. On n'a pas de réponse institutionnelle parce que c'est un phénomène nouveau chez nous. Et un des projets qui est porté par l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant, c'est un centre d'accueil pour les enfants en situation de rue. Mais on ne veut pas institutionnaliser ça parce que tout le monde n'est pas d'accord pour la mise des enfants dans des centres. On essaie de présenter un projet qui serait un centre d'accueil d'urgence qui permet de voir la situation des enfants cas par cas, de procéder d'abord à une psychologique des enfants, parce que surtout les enfants migrants non accompagnés, ils ont un traumatisme extrêmement important, parce qu'on arrive à avoir en Tunisie des enfants qui sont sur le trajet migratoire depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, et qui ont connu des situations extrêmement difficiles et des traumas profonds qui ne leur permettent pas d'avoir une réhabilitation rapide, donc ils doivent passer par un SAS pour se reconstruire un petit peu pour par la suite essayer de trouver un système de famille d'accueil et un système de construire un projet qui réponde aux besoins de chaque enfant précisément en partant du principe de la participation et que toutes les expériences réussies que nous avons eues et nous avons eues quelques-unes, c'était des choix qui étaient partagés entre les éducateurs et les enfants. Et là, nous avons quelques réussites dont on peut être fier, d'enfants qu'on a récupérés, par exemple, après les derniers troubles qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui sont arrivés sur le sol tunisien, qui ont pu être reconstruits, rescolarisés, et sont arrivés jusqu'au bac, et qui ont réussi leur bac, et qui ont pu se reconstruire et avoir un projet individuel. Donc, ce sont des petites réussites, point de vue nombre, mais qui sont emblématiques, qui nous aident à avoir la confiance nécessaire pour aller vers ce centre d'accueil pour les enfants en situation de rue.
Alors, sur ce cas précis, parce qu'en France, on est confronté aussi aux mineurs non accompagnés. En France, il y a un déficit de l'État pour les prendre en charge. L'État s'arrange toujours pour ne pas les reconnaître comme mineurs accompagnés. Ils prétendent, par exemple, qu'ils sont plus grands que 18 ans pour éviter de les prendre en charge. Et du coup, c'est en France, et peut-être le cas chez vous, ce sont des associations caritatives, comme les hébergeurs solidaires, comme des tas d'associations qui suppléent à la carence de l'État qui est envahi. Enfin, il faut dire les mots, hein. Il y a tellement de monde qu'ils bottent en touche, ils s'arrangent pour ne pas les
Il
reconnaître.
n'arrive pas à répondre. Oui. Non. Non, non, je vous ai dit que la Tunisie est pionnière en matière de droits de l'enfant, parce que tout le droit tunisien écrit parle de l'enfant en Tunisie et pas de l'enfant tunisien. Il n'y a aucune discrimination dans l'approche légale des droits des enfants, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la situation juridique de leurs parents. Ça veut dire qu'un enfant qui est sur le sol tunisien, par le simple fait qu'il est sur le sol tunisien, il a le droit d'être inscrit à l'école, il a le droit d'avoir accès au centre de soins de santé de base, il a le droit au socle minimum de services qui est offert par l'État et bénéficie exactement des mêmes prestations de services que tout enfant tunisien. Donc il n'y a aucune discrimination au point de vue race ou au point de vue situation juridique des parents. Même des parents en situation illégale, leurs enfants peuvent être scolarisés en attendant de régler la situation des parents. Le seul frein qui reste par rapport à des enfants qui viennent de pays qui ne sont pas arabophones, c'est que le système éducatif tunisien, évidemment, est un système bilingue, mais la partie arabe est quand même importante. Et on a obtenu de la part de l'État tunisien, du ministère de l'Éducation, qu'il y ait un système d'évaluation pour que les enfants soient dans deux niveaux différence. C'est-à-dire que si les francophones, il sera dans un niveau supérieur dans les matières enseignées en français et il sera dans les toutes petites classes pour acquérir le socle de base de l'apprentissage de l'arabe. Donc non, non, le système éducatif et le système d'accès à la santé et à la protection est ouvert à tout enfant qui se retrouve sur le sol tunisien, avec les moyens qu'on a, évidemment. On partage la misère de nos propres enfants, mais il n'y a pas de solution spécifique pour les enfants non tunisiens. Tout enfant en Tunisie a accès à toutes les institutions égales et les mêmes que celles auxquelles a accès un enfant tunisien.
C'est une bonne nouvelle que l'État tunisien engage des moyens.
Tout petits moyens, mais avec toutes les
Oui,
insuffisances de
oui.
l'État. Je ne vous dis pas que tout est rose, mais tous ces petits moyens, par exemple, on a une très très forte migration subsaharienne actuellement installée en Tunisie et dans une situation absolument illégale. Et c'est valable non seulement pour les enfants, mais pour toute la santé reproductive. C'est-à-dire qu'une femme subsaharienne sur le sol tunisien illégale, en situation illégale, elle peut aller suivre santé gynécologique dans les hôpitaux tunisiens gratuitement. Quand elle est enceinte, elle accouche à l'hôpital gratuitement. Ses enfants sont enregistrés et ils bénéficient de tout le schéma vaccinal que n'importe quel enfant tunisien, malgré le fait qu'elle n'ait ni carte de séjour, ni absolument rien du tout. Les soins de santé de base et essentielles qui sont garanties à la population tunisienne sont accessibles pour n'importe quelle personne qui est sur le sol tunisien. Évidemment, nos hôpitaux sont pauvres, nos moyens sont ce qu'ils sont, mais ils sont ouverts à toute personne qui est sur le sol tunisien. Et ça, c'est une fierté fondamentale pour tous les défenseurs de droits en Tunisie. D'ailleurs, tous les organismes, même onusiens, ils sont installés en Tunisie, sont vraiment très agréablement surpris par les prestations des services de base qui sont présentées aux personnes qui se retrouvent sur le sol tunisien. Donc, tout ce qui est santé maternelle et infantile est d'un accès égal et gratuit pour toute personne qui est sur le sol tunisien.
Une dernière question, si vous voulez bien, docteur Chérif. Parlez-nous un tout petit peu de votre association.
L'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant existe depuis, évidemment, depuis la Révolution, depuis 2011. Au lendemain de la Révolution, un des acquis essentiels de la Tunisie, c'est la liberté d'expression. Toutes les tranches de la population a pu s'exprimer et réclamer ses droits. Et on a fait le constat qu'il y avait une tranche qui n'avait aucune visibilité et dont la voix n'apparaissait pas dans le concert de toutes les voix qui se sont élevées en Tunisie, c'était la voix de l'enfant. Même la société civile tunisienne qui n'avait pas une formation spécifique aux droits de l'enfant et les droits de l'enfant, et vous le savez aussi en France, ne sont pas portés par toutes les grandes associations de la société civile qui défendent des droits humains en général. Ça reste le parent pauvre des droits. Donc, comme on l'a constaté, il y a un certain groupe d'activistes constitués essentiellement de médecins et de personnes opérant dans le système pédiatrique qui a pris la chose à cœur et nous avons constitué cette association. Le but était en premier, puisqu'on était dans une étape constitutive où on a refait la constitution en Tunisie, était d'aller vers la constitutionnalisation des droits de l'enfant. Parce qu'on a vu que les prestations de services de l'État vers l'enfant étaient personnes dépendantes. Quand on avait un ministre qui avait cette préoccupation, la prestation de services s'améliorait. Et quand on avait un autre ministre, quel que soit le domaine d'activité, qui n'avait pas cette préoccupation en tête, la même chose, on voit un recul des prestations et on voit un recul de l'investissement de l'État et un recul des prestations, surtout financières. L'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, qui est consenti dans le domaine de l'enfance. Donc on s'est dit, en inscrivant les droits de l'enfant dans la Constitution, ça nous donne un levier supplémentaire et constitutionnel pour dire que ce sont des droits constitutionnels, l'État est obligé d'y répondre, et à ce moment-là, on peut demander des comptes à l'État par référence à la Constitution. Et heureusement, on y est arrivé. On est arrivé à obtenir un article 47 dans le portail des droits et des libertés de la Constitution tunisienne qui dit que les droits de l'enfant sont à la famille et à l'État pour la garantir le droit d'accès à la protection, à l'éducation, à la santé. Et il y a deux choses fondamentales qui ont été inscrites dans la Constitution. C'est la non-discrimination. Et le deuxième principe, c'est que l'État doit obéir à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les mesures qui sont prises envers l'enfance. Donc, par référence à ces deux principes essentiels, d'abord la reconnaissance de l'enfant en tant que citoyen à devenir par l'État, et de l'autre côté, les principes de non-discrimination et de faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les démarches de l'État, ça a été un levier essentiel par la suite pour pouvoir travailler et essayer de remettre de l'ordre dans toute la législation tunisienne pour qu'elle soit conforme à la Constitution. Et même si actuellement on passe par une autre période de turbulence, le chef de l'État, et il y a un consensus dans toute la société tunisienne, que même si on va vers une troisième république et une révision de la Constitution, le portail des droits et libertés acquis, chèrement acquis après la révolution tunisienne, est un acquis sur lequel on ne reviendra pas et on sera considéré comme un socle sur lequel on ne reviendra plus, même dans les constitutions à venir de notre pays. Donc nous n'avons pas peur pour le côté législatif et constitutionnel pour l'enfant. On a un deuxième acquis qui est une véritable richesse dans la constitution tunisienne et sur lequel il y a un consensus sur lequel on ne reviendra pas non plus. C'est un article 20 de la Constitution dans le portail des droits et des libertés qui dit que les conventions internationales qui ont été ratifiées par le gouvernement tunisien sont au-dessus des lois tunisiennes. Donc c'est quelque chose de fondamental puisque la Constitution reconnaît la suprématie de la Convention internationale des droits de l'enfant par la Constitution elle-même sur la législation tunisienne. Donc à chaque fois qu'on a une situation juridique qui ne répond pas aux standards internationaux, on est outillé pour se présenter devant le juge et dire que non, même s'il y a un petit vide ou que si la loi qui existe ne répond pas aux standards internationaux, la référence doit revenir vers la Convention internationale des droits de l'enfant parce que c'est la Constitution qui le dit et c'est l'obligation des magistrats d'y répondre. Donc voilà, mais ceci dit, ce n'est pas rose pour autant parce que tout ça, c'est des mots sur des papiers si il n'y a pas une appropriation de ces valeurs par tous les intervenants. Et donc la mise en œuvre demande une appropriation et que cela devienne non pas une loi, mais que cela devienne une culture, parce que en système de comparaison, quand on va voir dans des législations ou dans les constitutions d'autres pays qui sont cités en exemple en matière de respect des droits de l'enfant, on voit qu'il s'agit beaucoup plus de bonnes pratiques que de textes et de lois écrites. Donc les bonnes pratiques sont quelque chose d'essentiel et l'appropriation de tout ce cadre juridique est un travail de longue haleine et qui doit être une préoccupation permanente.
Mille merci, docteur Chérif, pour ce long entretien qui nous a permis de comprendre comment, avec votre association, vous prenez en charge les droits de l'enfant en Tunisie. À bientôt.
Je vous en prie. À bientôt.
À bientôt. Et longue vie à l'association tunisienne de défense des droits de l'enfant. www.enfant.tn, enfant de Tunisie.
Pour bien grandir, il faut bien sourire. Pour bien sourire, il faut aimer. Aimer les caresses de plumes qui glissent sur la peau en chantant des paroles d'oiseaux. Pour aimer les plumes de tous les oiseaux, il faut parler en tendresse. Et pour la parler, cette belle langue des hommes heureux, il faut la recevoir un jour, 100 jours, 1000 jours, comme on reçoit le mot papa, le mot maman, le mot frérot, les mots « Tiens, mucho, je t'ai servi un verre de lait de coco. » Mucho, c'est le petit nom que lui ont donné ceux qui l'aiment beaucoup. Son lait, il en laisse toujours un peu pour les oiseaux. Aïcha est assise sur la dune de sable. Chaque année, 2 milliards d'ananas sont ramassés dans les allées de notre généreux jardin planétaire. Bon, Aïcha n'en sait rien. 36 milliards d'oranges y sont cueillies. C'est-à-dire 12 oranges pour chacun des enfants que nous avons invités autour de la grande table de la vie. 600 millions de tonnes de riz aussi, récoltées pour eux, pour leurs parents et leurs vieux grands-parents qui n'ont presque plus de dents. Aïcha l'ignore, comme elle ignore la sensation d'être rassasiée, d'être libérée de cette faim qui, quand elle s'empare de l'estomac, accapare le corps et l'esprit tout entier. Personne n'a jamais osé avouer à Aïcha que dans leur immense jardin, les hommes font pousser de quoi nourrir tous les terriens, et plus encore, leurs animaux. Aïcha garde les yeux clos. Salila, lui, ne comprend pas. Dans son quartier, sur les hauteurs de la ville, il n'y a pas d'eau dans les maisons. À part la pluie parfois. Pas d'eau, mais un énorme serpent d'eau dévale pourtant la pente. Il court apporter de l'eau pure au quartier riche du centre-ville. Le tuyau et l'eau passent, mais ne s'arrêtent pas. Il y a bien sûr la pompe collective à l'angle du 13e pâté de maison. Un jour, dans les reflets d'une goutte d'eau, Salila a vu une rivière avec des arbres fontaines, des chevaux éclabousseurs. Mais a trop rêvé dans la file d'attente de la pompe, on se fait voler sa place. Depuis sa chaise, la vieille Hashima crie « Allez, à quoi bon frapper sur la tête de celui qui t'est passé devant, Salila ? Le voleur d'eau, il n'habite pas ici. » Vous venez d'entendre quelques-uns des 32 portraits d'enfants racontés en poésie par le poète Alain Serre dans son magnifique album « Je serai 3 milliards d'enfants ». Je vous souhaite de le lire très vite. Je vous dis prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'enfant a des droits.